Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous et bienvenue dans vos animaux. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes en direct et merci infiniment d'être là comme chaque samedi matin fidèle à cette émission. Alors aujourd'hui, trois maîtres mots: sauvetage, découverte et émerveillement. Savez-vous qu'en France, de nombreux animaux, y compris des chiens, des chats, des chevaux, sont utilisés par des laboratoires? L'association Graal, que je vais vous présenter aujourd'hui, milite pour que ces animaux aient droit à une retraite en famille. Vous découvrirez notamment les témoignages de Carole et d'Anne qui ont adopté avec bonheur des chiens de laboratoire. Elles nous diront comment ça s'est passé, comment leurs toutous se sont acclimatés à cette nouvelle vie en famille, des récits absolument touchants qui, j'en suis sûre, vous donneront envie. Côté faune sauvage, on va vous faire voyager grâce au magazine Terre Sauvage, direction l'Islande ce matin, où nous partirons à la découverte de sa faune absolument extraordinaire. Et puis je recevrai un photographe de génie, j'adore son travail. Il s'appelle Stéphane Hett. Sa signature, ce sont des photos très épurées, très graphiques d'insectes ou d'oiseaux prises sur fond blanc et tout ça réalisé dans son jardin. Quelques exemples sont d'ailleurs en ligne sur mon compte Instagram Pets & Wild, je vous propose d'aller les découvrir. Allez, merci à vous d'être avec nous sur Sud Radio en direct. Vous connaissez le numéro de notre standard 0826 300 300, on vous attend.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Merci à vous d'être présents comme chaque samedi matin dans vos animaux. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux de laboratoire. Un sujet compliqué, un sujet qui peut faire peur. Mais vous allez voir qu'il y a une association formidable qui se bat pour faire en sorte que ces animaux, ou en tout cas une grande partie d'entre eux, puissent avoir une retraite paisible après leur entre guillemets carrière en laboratoire. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Françoise Lheureux. Bonjour Marie-Françoise.
Bonjour Natacha.
Marie-Françoise, vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association Graal que vous avez créée il y a 23 ans pour permettre justement aux animaux de laboratoire de ne pas être euthanasiés après leur carrière de laboratoire, pour permettre à ces animaux de trouver une famille d'adoption. Alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs ignorent qu'en France, il y a beaucoup d'animaux qui sont utilisés dans les laboratoires. Combien sont-ils environ ?
Alors, dans les laboratoires français, chaque année, il y a à peu près 2 millions d'animaux qui s'y trouvent. Alors, si on fait une ventilation et une répartition, vous avez à peu près 1 150 000 souris, si on se réfère aux chiffres publiés par le ministère de la Recherche en 2016. Donc, les souris forment le bataillon le plus important de ces animaux de travail. Ensuite, les poissons, 300 000, les rats, 170 000, les lapins, 120 000, les chiens, 4 000, les chats, 4 000 chiens, les chats à peu près 1 000, les primates 3 500, c'est un chiffre qui est très important. Voilà, donc à peu près 2 millions en France et ce chiffre ne baisse pas, c'est à peu près toujours la même chose.
Alors, malheureusement, on ne peut pas faire adopter tous ces animaux, notamment les rongeurs, on sait que c'est extrêmement compliqué. Vous, vous œuvrez avec votre association Le Graal pour faire en sorte qu'un maximum d'entre eux arrivent à trouver un foyer, notamment les chiens, les chats et les chevaux. Vous travaillez aussi avec des associations qui peuvent accueillir des primates. Là encore, c'est compliqué de trouver des structures d'accueil pour ces animaux-là. Puisque nous aimons aussi dans cette émission raconter des choses positives et pas simplement alerter sur le sort de ces animaux, depuis sa création, Marie-Françoise, le Graal a fait adopter, a permis de réhabiliter combien d'animaux ?
Alors là, nous approchons du 4000e. Pour nous, c'est un seuil symbolique, très important. Quand nous avons démarré en 2005, on ne donnait pas cher de cette démarche-là qui, à cette époque, ne représentait rien. Nous n'avions même pas encore en poche, si l'on puisse dire, un laboratoire qui nous faisait confiance. Et 15 ans plus tard, puisque là, donc, nous sommes en 2020 et on a commencé en 2005, même si le Graal...
Vous avez créé l'association en 1997, mais pu démarrer les adoptions uniquement en 2005.
Voilà, voilà, parce que de 1997 jusqu'en 2005, le Graal a eu une vie associative, on va dire, plus classique, lutte contre la maltraitance animale, dont nous étions également mis en relation avec des associations du Sud pour lutter contre la corrida en France. Donc on avait une activité, on va dire, tout à fait classique. Et à partir de l'année 2005, le Graal a lancé cette grande démarche nationale qui n'a fait que s'amplifier et qui, effectivement, tend la main aux animaux qui se trouvent dans les laboratoires. Et nous sommes arrivés, effectivement, maintenant, de fil en aiguille, à travailler avec 90 unités de recherche françaises, les plus grands laboratoires publics, les plus grands laboratoires privés. Et là, dans quelques jours, nous allons franchir le 4000e animal réhabilité des laboratoires. Donc, ça peut paraître beaucoup et à la fois assez peu quand on rappelle, comme on vient de le faire, les chiffres. Voilà, donc le Graal ne peut peut-être réhabiliter chaque année que 5 à 10% de chacune de ces catégories-là. Mais il n'empêche que 4000, pour nous, c'est un succès. Et voilà,
effectivement, chaque fois, ce sont des belles histoires qui s'écrivent. Votre premier animal réhabilité, c'était une petite chienne, Tia, une petite schnauzer. C'était donc en 2005. Aujourd'hui, vous nous l'expliquez, vous en êtes à quasiment 4000 animaux réhabilités. Je suis certaine que la plupart de nos auditeurs se posent cette question, mais dans quel état sont ces animaux quand on les adopte ?
Eh bien, ces animaux, lorsqu'on les adopte, sont en bonne santé, dans la mesure où, de toute façon, les animaux qui, malheureusement, participent au sein des laboratoires à des protocoles de sévérité très importantes, sont euthanasiés. Donc, c'est la triste réalité, mais le Graal ne peut récupérer, si vous voulez, et surtout donner une seconde vie qu'à des animaux qui sont en bonne santé, qui ne présentent aucun risque pour les humains, les congénères et l'environnement, et pour lesquels les laboratoires ont mis en place un programme de socialisation avant leur sortie. Ce qui fait qu'en termes d'adaptabilité, bon, il y a encore un petit peu de travail à faire, mais ils sont quand même socialisés, on va dire. Et ça, ce sont les termes de la directive.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces animaux, pendant leur vie en laboratoire, quand on parle des animaux, par exemple, de compagnie, des chiens, des chats, ils n'ont pas une vie normale. Ils sont en cage, ils sont en groupe, ils n'ont pas appris à faire leurs besoins, ils ne connaissent pas du tout l'environnement extérieur. Donc tout ça, c'est une démarche que l'adoptant devra faire ensuite.
Absolument, sachant que lorsque ces animaux sortent de laboratoire, donc comme je l'ai dit, ils ont quand même bénéficié d'un programme de socialisation au sein des unités de recherche, et ça c'est la loi. Donc c'est une première étape. Ensuite, les refuges, lorsqu'ils les accueillent, ont en général des comportementalistes qui sont présents, qui sont sur place. Le Graal a également des éthologues qui prêtent main forte à cette étape de socialisation. Et enfin, le plus gros du travail, il est vrai, est réservé aux adoptants dans leur foyer qui vont apprendre à ces animaux la propreté, la marche en laisse, le fait de participer à des voyages, de manger dans la gamelle sans aller manger dans la gamelle du copain. Et voilà, donc les animaux, lorsqu'ils sortent, ont l'âge mental de chiot ou de chaton. Et donc, les maîtres ont tout à leur apprendre. Mais comme je le répète, ils ont quand même bénéficié en laboratoire d'un programme de socialisation.
Alors, on va écouter, Marie-Françoise, le témoignage de Carole. Bonjour, Carole.
Bonjour.
Carole, vous avez adopté deux animaux de laboratoire, deux petits bigles. L'une s'appelle Plume et l'autre Zip. Racontez-nous comment ça s'est passé et parlez-nous de ces deux adoptions qui, je crois, pour avoir pu échanger avec vous au préalable, sont vraiment des choses que vous ne regrettez nullement.
Oui, alors effectivement, j'ai bien adopté deux gentils chiens adorables, vraiment adorables. Donc la première, c'était Plume. Plume avait 4 ans, parce que je l'ai recueilli chez moi. Donc il y a 10 ans, aujourd'hui elle a 14 ans. Et donc c'est une très très belle aventure avec elle, parce qu'effectivement, donc elle était adulte quand je l'ai recueillie. Et comme vous l'avez...
Et elle n'avait donc rien connu d'autre depuis sa naissance jusqu'au moment où elle est arrivée chez vous. Elle n'avait rien connu d'autre qu'un laboratoire.
Exactement, c'est ce que vous avez précisé tout à l'heure. Elle ne connaissait rien de l'extérieur, ni l'herbe, ni après les escaliers, les bruits environnants. tout ça, ça a été un travail. En fait, le mot est un peu dur, hein, un travail. Quand on aime les animaux, c'est un plaisir de leur faire découvrir tout ce qui est.
Oui, mais c'est quand même un engagement. C'est une démarche un petit peu inhabituelle, quand même.
Oui, oui, tout à fait. Après, moi, voilà, il faut beaucoup de patience, c'est vrai, beaucoup, beaucoup de patience. Mais avec beaucoup d'amour et d'attention, cela se passe très, très bien.
Et comme ça s'est bien passé avec Plume, vous avez réitéré avec Zip.
Exactement, j'ai voulu lui donner un petit compagnon qui, lui était vraiment très jeune. Il avait 4 mois. Donc, en fait, c'était un chiot, donc il n'y avait vraiment pas de découverte vraiment particulière. On prenait un chien vraiment qui était tout petit, donc qui était très demandeur et très curieux.
Est-ce que vous avez le sentiment, Carole, que Plume, en particulier, parce que c'est elle qui a quand même vécu 4 ans en laboratoire, alors que Zip, on l'a bien compris, n'y a passé que quelques mois, est-ce que Plume a des séquelles, peut-être au moins émotionnelles, par rapport à cette vie de laboratoire ?
Alors aujourd'hui, non, aucune. Hein. Aucune séquelle, aucun souvenir. Enfin, elle ne laisse pas transparaître toujours. Elle est vraiment devenue, elle est méconnaissable, hein. En 10 ans, elle est devenue vraiment un chien, une petite princesse. J'ai bonheur à dire ça. Elle est vraiment une petite princesse. Elle est très bien dans son environnement. Elle est à l'aise partout avec nous. Elle est très complice. Vraiment, vraiment, elle est très, très agréable à vivre.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie de faire la même démarche que vous, mais qui ont encore quelques craintes ?
Alors justement, il faut vraiment avoir aucune crainte. Si vous avez beaucoup de patience, si vous aimez les animaux, si vous avez du temps pour eux, si vous avez envie de partager vraiment des belles aventures, des belles émotions, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Moi, c'est vraiment une belle aventure. Vraiment, avec ces deux chiens, c'est vraiment un bonheur au quotidien.
Eh bien, merci beaucoup, Carole, pour ce témoignage. Je précise que vous avez créé une page Facebook qui s'appelle Plume, Beagle, voilà, où vous racontez cette histoire. Et c'est un très bel exemple, justement, d'adoption réussie d'un animal de laboratoire. Grâce à vous, Plume et Zip ont aujourd'hui une vie parfaitement heureuse. On va prendre un autre témoignage d'une autre adoptante d'un animal de laboratoire. C'est Anne qui est avec nous. Bonjour, Anne.
Bonjour.
Vous, Anne, vous avez également, comme Carole, adopté un chien de laboratoire, mais il s'agit d'un Golden Retriever, enfin d'un croisé Golden Labrador pour être tout à fait précise, qui s'appelle Bounty. Qu'est-ce qui vous a motivé, Anne, dans cette démarche ?
Alors, ce qui nous a motivé, c'est d'abord la rencontre avec l'association Graal, enfin une rencontre à travers les communiqués qu'ils pouvaient faire. On a été très sensibilisés par l'action qui est menée, on a été très touchés et le hasard a fait que, enfin le hasard, la vie a fait qu'on a perdu un de nos vieux chiens. Et quand on s'est posé la question de reprendre un autre animal, assez naturellement et au regard de tout ce qu'on avait pu lire dans les témoignages du Graal, on s'est tourné vers le Graal pour obtenir la possibilité de d'accueillir un chien de laboratoire à la maison.
Racontez-nous comment s'est passée votre première rencontre avec Bounty.
Alors, Bounty, on est allé le chercher en fait à l'école vétérinaire où il était utilisé pour un certain nombre de tests. Et donc ça a été compliqué parce qu'on nous a présenté, le soigneur nous a présenté peut-être une dizaine de chiens qui étaient tous issus de la même fratrie. Et donc évidemment, faire un choix parmi tous ces chiens qu'on aimerait tous emmener finalement, c'était très difficile. Et il se trouve que Bounty, il était très très craintif, comme les autres d'ailleurs. Mais il y a eu un moment où il y a eu un petit signal. Il s'est assis au pied de notre fils. Et il lui a léché les mains. Et là, on s'est dit, bon, celui-là est en train de nous faire des signes et on va l'emmener. Mais et alors, on a un regard très ému sur tous les autres.
L'arrivée à la maison s'est passée comment, Anne ? J'imagine qu'il a fallu lui apprendre la propreté, déjà.
Oui, il faut tout lui apprendre. Il a tout fallu lui apprendre parce que c'était un chien adulte qui n'avait jamais rien vécu d'autre que sa vie en cage. Et du coup, il a dû apprendre à marcher en laisse, il a dû apprendre à découvrir, enfin, avant même de marcher en laisse, à découvrir la rue, le jardin, les voitures, les arbres, monter les escaliers, les descendre, c'était encore plus compliqué, et la propreté. On est parti, enfin, on avait un chien adulte qui devait réapprendre à vivre et découvrir, un environnement autre que...
Combien de temps ça a mis justement pour lui permettre d'apprendre cette vie qui est une vie normale théoriquement, mais qui n'a pas été la sienne au préalable?
Je dirais que le plus long, ça a été la propreté. Pour tout le reste, il s'est vite acclimaté, et je pense qu'il a aussi été pas mal aidé par la présence de notre autre chien. Qui finalement lui a montré aussi la vie. Hein. Alors la vie, c'est monter sur le canapé, c'est aller faire ses besoins dehors. C'est... Voilà, il lui a tout appris, en bien et en mal.
D'accord. Et qu'est-ce que vous retirez de ce geste, de cette aventure?
Alors je trouve que c'est extrêmement gratifiant, c'est une belle rencontre. Nous, on a eu la chance, et je pense qu'ils sont tous comme ça, parce que tous les témoignages qu'on peut lire nous laissent penser que ce sont des chiens qui sont qui sont affectueux, qui sont généreux, qui ont un plaisir à revivre.
Ils n'en veulent pas à l'être humain qui leur a fait subir des choses parfois difficiles quand même.
Non. En tout cas, pour ce qui concerne Bounty, c'est absolument pas le cas. C'est un chien qui est très très affectueux, très joyeux. Il vit dans l'instant présent. On sent qu'il a un plaisir à vivre, un plaisir à se rouler dans l'herbe, à manger, à courir, à être caressé. Il profite de cette nouvelle vie. Et c'est vrai que très souvent, enfin, et c'est souvent comme ça que Marie-Françoise le représente, les chiens, les animaux du Graal. Je parle des chiens, mais globalement des animaux du Graal en essayant de promouvoir l'idée qu'ils puissent avoir tous une retraite. Moi, j'ai envie de dire que pour ce qui concerne Bounty, c'est presque une renaissance après cette année qui passait en cage. Moi, j'observe Bounty comme étant en renaissance et il s'ouvre à la vie.
Eh bien, merci beaucoup, Anne, pour ce témoignage qui est extrêmement touchant, franchement. Et puis, bravo pour ce geste d'amour que vous lui avez adressé, même si j'imagine le crève-cœur de laisser tous les autres derrière. Nous avons Anne-France qui a composé le numéro du standard de Sud Radio et qui souhaite réagir. Bonjour, Anne-France.
Allô, bonjour. Bah, écoutez, j'écoute votre émission, bien entendu, comme d'habitude. Et
merci.
Je suis très touchée de ce que j'entends. Parce que ben, moi, je fais partie quand même d'une association où on essaie de sociabiliser les chats de rue. Et nous avons pas mal de problèmes parce que bon, ben, c'est pas facile. Et je pense qu'on va essayer de se diriger ou de diriger les adoptants, parce qu'on a beaucoup d'adoptants, et de diriger les adoptants vers ce système-là. Parce que je trouve qu'effectivement... sauver ces animaux des laboratoires, quand ils ont rendu un fier service pour nous, d'ailleurs,
hein,
oui, parce que c'est aussi pour notre santé et pour notre avenir, je trouve que c'est très bien. Donc, je pense que notre association va prendre un autre cap pour essayer de trouver ces solutions.
Comment s'appelle votre association, Anne-France, rapidement?
Les Patounes.
Mes patounes, voilà. Eh bien, merci Anne-France pour votre témoignage au standard de Sud Radio. Vous avez composé le 0826-300-300. J'aimerais donner le mot de la fin à Marie-Françoise Lheureux. Marie-Françoise, on a beaucoup parlé des chiens. Il y a aussi des chats qui sont proposés à l'adoption et même des chevaux.
Oui, absolument. Le Graal, en 2014, avait lancé une grande opération pour la réhabilitation de 130 chevaux de laboratoire venant d'un grand groupe privé. Et donc, pendant 3 ans, nous avons cherché les meilleurs adoptants pour ces chevaux. Nous avions à peu près, sur ces 3 ans, nous avions 40 à 50 chevaux à placer. Donc, nous avions mis en place un réseau de délégués
qui allait vérifier les placements, etc. Et là, nous sommes à la tête maintenant d'une famille de 140 chevaux de laboratoire. Et là aussi, nous avons de très bons retours de photos de chevaux au pré, etc. Voilà, donc nous avons finalement le même lien avec tous les animaux réhabilités, qu'il s'agisse de chats, de chiens, de primates, de chevaux. Ce sont à chaque fois de très très belles histoires.
Et juste voilà. Très rapidement, Marie-Françoise, quelqu'un qui nous écoute ce matin et qui souhaite adopter un animal de laboratoire, quelle démarche doit-il faire? Comment il s'adresse à vous? Très rapidement.
Très rapidement. Il faut que les adoptants aillent sur les réseaux sociaux du Graal, la page Facebook du Graal ou Instagram. Et là, lorsque nous avons une réhabilitation, voire plusieurs, toutes les indications sont. Vous avez le nom du refuge, ses coordonnées, les espèces qui y sont concernées. Voilà, donc sur le Facebook du Graal, vous avez tout. Je crois que c'est la meilleure chose. Sinon, il y a un numéro de téléphone, il y a un mail.
Tous vos contacts sont donc sur le Facebook, la page Facebook notamment du Graal. Absolument. Ou sur Instagram. Merci infiniment Marie-Françoise Lheureux pour cette jolie aventure que vous nous faites partager ce matin et pour votre amour des animaux. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour un magnifique voyage en Islande.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'écouter Sud Radio, merci d'être présent comme chaque samedi matin dans vos animaux. Dans notre séquence à l'état sauvage, nous allons voyager et nous prendrons la direction de l'Islande pour découvrir son incroyable faune. Et puis je vous ferai aussi découvrir un photographe animalier totalement atypique. Il travaille chez lui, dans son jardin, il photographie des insectes, des oiseaux, le tout sur fond blanc. Ça donne des photos absolument sublimes que je vous invite à aller découvrir sur mon compte Instagram Pets and Wild. Mais tout de suite, c'est l'heure de la question veto.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Bonjour Martine. Vous aviez, Martine, une question à me poser sur la leishmaniose de votre chien. Je vous écoute.
Voilà. Merci. Bonjour Natacha.
Bonjour Martine.
Mon chien a bientôt 4 ans. Il y a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi, je l'avais récupéré, fourrière, SPA. Il a eu la leishmaniose qui a été bien soignée et c'est reparti pendant 3 ans tranquillement. Et il a fait une rechute là juste avant le confinement. Il avait très mal partout. J'ai fait faire des analyses et c'est reparti pour la leishmaniose. Donc, pendant le confinement, on a fait les piqûres de glucantine et maintenant, et il doit prendre de l'allopurinol au long cours pendant 4 mois. Oui. Et depuis, il vomit facilement de la bile, parfois la nuit, presque pas tous les matins, mais presque. Dehors, il se précipite pour manger du chien d'or, vous savez. Alors, je ne sais pas si je dois l'empêcher ou pas, déjà. Enfin, je sais qu'il boit énormément. Et donc, c'est par rapport à cette bile qu'il vomit. Je ne sais pas si c'est son foie qui est barbouillé. Il n'a plus le même appétit le matin. Mm-hmm. Voilà. Et en plus, pour lui faire prendre son demi-comprimé d'allopurinol, au début, il veut bien. Et là, au bout de 15 jours, ça devient la croix et la bannière. Voilà.
Mm-hmm. Alors, je sais pas ce que ça fait. Déjà, pour expliquer à nos auditeurs ce qu'est la leishmaniose, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette maladie, c'est une maladie qui est causée par un tout petit parasite microscopique qui est inoculé au chien, mais le chien n'est pas la seule espèce touchée, mais l'homme peut également être touché. C'est inoculé au chien par un petit insecte piqueur qui s'appelle le phlébotome. Alors, cette maladie, on la trouve principalement dans les régions du tiers sud de la France, parce que ce phlébotome aime la chaleur, donc on la trouve dans les régions chaudes, mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique et aussi les voyages, on s'est rendu compte que cette maladie prenait de plus en plus d'ampleur. Alors, vous décrivez assez bien ce processus symptomatique de la leishmaniose. Moi, ce que je vous conseille, Martine, c'est vraiment de refaire un contrôle sanguin avec votre vétérinaire pour aller contrôler l'ensemble des constantes, qu'elles soient rénales, hépatiques, pour expliquer ces vomissements que vous avez perçus depuis peu, parce qu'il y a peut-être d'abord une recrudescence de la maladie chez votre chien et aussi une intolérance aux médicaments qu'il prend en ce moment. Donc c'est vraiment important d'aller contrôler ces constantes sanguines. Sachez qu'en ce moment, hein, même en période de confinement, les vétérinaires sont ouverts pour les urgences. Et là, pour moi, il s'agit quand même d'une urgence. D'abord parce que cette maladie, la leishmaniose, est une maladie très invalidante lorsque les symptômes se manifestent. Certains animaux peuvent être asymptomatiques, donc c'est bien pour eux. Mais quand les symptômes se manifestent, c'est une maladie invalidante qui nécessite un traitement au long cours et qui nécessite un suivi de l'animal au long cours. Donc vraiment, appelez votre vétérinaire, ne le laissez pas comme ça, car il faut voir précisément de quoi il s'agit. Il faut aller contrôler tous ces paramètres qui sont révélateurs d'un dysfonctionnement, peut-être de son foie, peut-être de ses reins. Il faut vraiment contrôler tout ça en urgence, Martine.
Je l'ai fait, hein, mais comme le cabinet des vétérinaires, il y a un roulement, si vous voulez. Et donc, ce sont des vétérinaires que je ne connais pas. J'ai consulté, hein, voilà. Donc, on m'a donné un traitement pour empêcher de vomir ou des choses comme ça. Mais je n'ai pas pu contacter la vétérinaire qui le suit depuis.
Mais est-ce que vous avez les paramètres des analyses antérieures avec vous?
Oui.
Parce que si le vétérinaire que vous avez vu, qui n'est pas votre vétérinaire habituel, a accès au dossier médical de votre chien, il peut tout à fait adapter le traitement.
Oui, je vois bien. Hein. Il y a la sérologie que j'avais fait faire, qui est très élevée, 1280, alors que c'est 80, il faut que ce soit inférieur à 80. C'était très positif. Bon, il a eu son traitement. Franchement, il ne pouvait plus marcher tellement il avait mal. Et depuis les piqûres, la glutamine, il est redevenu très, très joueur. Il a plus mal.
D'accord, donc ça va mieux, ça s'est amélioré.
Ça s'est amélioré, c'est cette histoire de vomissement. Et je vois bien que le matin, il est barbouillé. Après ça, dans la journée, ça passe. Alors, il a eu de l'éméprides pour pas vomir, du fosfalugel, mais ça l'a tellement constipé que c'était un autre problème. Et l'allopurinol, c'est, je crois, le seul médicament, après ça, qu'on connaît pour... pas éradiquer, mais enfin que la leishmaniose ne réapparaisse pas. Et donc, ce médicament, j'ai l'impression qu'il lui donne des nausées.
Oui, mais c'est possible. Et puis surtout, la glucantine dont vous nous parlez est un médicament qui peut avoir des effets toxiques sur les reins, notamment. On sait aussi que les médicaments utilisés dans la leishmaniose peuvent créer des vomissements, des diarrhées. Enfin, voilà, c'est pas neutre, la mise en place de ce traitement. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si vous voyez que son état se dégrade, il faut vraiment reconsulter à nouveau. Je sais que c'est problématique, ça coûte cher, mais malheureusement, cette maladie est vraiment très enquiquinante et il est important de faire un suivi très précis de votre animal pour adapter au fur et à mesure, non seulement le traitement, mais aussi tous les traitements symptomatiques en fait, des conséquences de la maladie, parce que c'est vraiment essentiel de le faire en permanence.
Oui. Comme on lui a prescrit 4 mois d'allopurinol, j'en suis à 3 semaines. D'habitude, c'était 10 jours par mois. Ça allait bien. Enfin, il y a eu une rechute quand même. Hein. Et donc, j'attendais un peu peut-être de prolonger un peu le traitement avant d'aller refaire...
Si vous voyez que l'état est stabilisé, vous pouvez attendre un petit peu. Mais surtout, s'il y a une dégradation de son état, là, il faut aller consulter en urgence.
Oui, d'accord.
Voilà, Martine. Bon. Merci bon courage beaucoup. À vous, Martine. On vous embrasse et bon samedi, beaucoup. Bon week-end.
Vous aussi, merci beaucoup.
Merci infiniment d'écouter Sud Radio et d'être fidèle à cette émission. Allez, on va maintenant partir à la découverte d'un pays formidable pour tous les amoureux de la nature et de la faune sauvage, puisqu'il s'agit de l'Islande.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et pour nous parler de l'Islande, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Thévenet. Bonjour Olivier.
Bonjour Natacha.
Vous êtes le rédacteur en chef du magnifique magazine Terre Sauvage, un magazine qui a l'habitude de nous faire voyager, de nous faire découvrir la nature grâce à, notamment à des photos qui sont toujours d'une extraordinaire beauté. Et ce mois-ci, vous consacrez une partie de ce magazine à l'Islande. L'Islande, un pays aux multiples visages, un pays aux deux saisons et un pays aussi où la faune a vraiment toute sa place. Quelles sont les espèces les plus emblématiques de l'Islande, Olivier ?
Alors, comme vous venez de le dire, effectivement, l'Islande est un pays magnifique qui est souvent très connu pour sa géographie, sa géologie assez impressionnante et on pourrait dire perturbée, puisque c'est le pays des volcans, c'est le pays des glaciers. Mais c'est aussi un pays qui est très riche en faune. Alors, il y a un animal qui est un animal emblématique de l'Islande, qui est le renard arctique, le renard polaire. Donc qui est vraiment qui est, on va dire le seul mammifère en fait vraiment natif d'Islande, puisque voilà, donc c'est le plus timide et puis c'est celui qui a été là depuis très longtemps. C'est un animal qui a su s'adapter aussi au climat.
Oui, cet animal est assez étonnant parce qu'il a une vraie capacité d'adaptation au climat, au changement de saison, notamment par le changement de la couleur de son pelage. Racontez-nous ça. Alors, embarquez-nous avec vous, Olivier, en Islande.
Alors, effectivement, le renard arctique, en fait, c'est un petit animal qui est extrêmement adapté aux conditions climatiques de ce pays. Donc, il a en hiver, et l'hiver en Islande est assez long, hein, parce que c'est quasiment une bonne partie de l'année, presque 8 mois de l'année. Donc, il a un pelage qui change de couleur, déjà, pour pouvoir être moins visible par ses éventuels prédateurs. Ensuite, il a une graisse qui lui permet de garder son corps au chaud. Il a des poils aussi sous les pattes qui lui permettent de marcher, par exemple, sur la neige sans avoir trop froid. Donc c'est un animal qui est extrêmement adapté à ces conditions, puisqu'après l'été, quand l'été vient, parce qu'il y a quand même une saison d'été en Islande, là aussi on a un pelage qui s'allège, qui change aussi de nouveau de couleur, il devient un peu plus brun, un peu plus dans les tons brun bleu pour certains. Il perd ses poils, il perd un peu de graisse et donc du coup il s'adapte à cette nouvelle saison.
Alors, on ne peut pas parler d'Islande, bien sûr, sans parler des oiseaux. L'Islande, c'est quand même un lieu de passage pour beaucoup de migrateurs en cette période de printemps. Alors, en ce moment, en plus, ils doivent y trouver un calme absolument incroyable parce que il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de randonneurs, personne pour les déranger. Qu'est-ce qu'on peut observer comme type d'oiseau, Olivier, en Islande ?
Alors, l'Islande, c'est effectivement un pays qui est très connu pour ses oiseaux et notamment ses oiseaux migrateurs. Il faut savoir qu'effectivement, on va dire à partir du mois de mai et du mois de juin, on a des oiseaux qui remontent du sud de l'Europe et qui vont passer, on va dire, l'été du côté des côtes islandaises notamment, et pas que, mais en tous les cas, une bonne partie des certains oiseaux vont passer l'été là-haut. Alors, il y a notamment plusieurs oiseaux un peu emblématiques, mais il y en a un qui fait le printemps en Islande. Alors chez nous, c'est l'hirondelle. En Islande, il s'appelle le pluvier doré. Voilà, c'est un magnifique petit oiseau. Il y a du stern arctique aussi, qui est assez connu, assez emblématique. Alors, on a un oiseau bleu avec un bec orange très beau. Et puis, il y a, on va dire, l'oiseau qui est l'oiseau emblématique de l'Islande, qui est le macareux moine, puisque c'est sur cette île qu'on trouve la population la plus importante de macareux au monde.
L'Islande, donc, pays rêvé pour tous les amoureux des oiseaux. Alors, en ce moment, c'est pas le moment de voyager, évidemment, mais grâce au magazine Terre Sauvage, vous allez pouvoir découvrir vraiment des photos absolument sublimes, extrêmement bien documentées aussi, puisqu'il n'y a pas que des photos, il y a beaucoup d'explications sur la vie de cette faune islandaise. L'Islande, ce ne sont pas que les oiseaux, que les renards, on y trouve aussi pas mal de phoques.
En fait, après, oui, les autres mammifères, en fait, qu'on va trouver en Islande, c'est plutôt effectivement des mammifères marins. Donc, il y a des phoques, et puis après, évidemment, il y a des baleines. On va dire que c'est l'Islande, il y a les oiseaux migrateurs, et puis ensuite, il y a les mammifères marins. Si vous avez la chance d'aller en Islande et que vous avez encore plus de chance en croisant un renard polaire, c'est déjà beaucoup, mais c'est effectivement un pays qui regorge de richesses naturelles, à la fois pour sa faune, pour sa flore aussi, et puis évidemment pour ses paysages.
Un pays qu'on aura hâte de découvrir dès que nous pourrons à nouveau voyager. Mais pour le moment, le meilleur moyen de le découvrir, c'est de lire ce numéro du mois de mai du magazine Terre Sauvage que vous pouvez trouver en ligne, hein, puisque vous le mettez notamment en ligne sur votre site internet. C'est bien ça?
Alors oui, effectivement, c'est vrai que la distribution en ce moment de la presse est un peu plus compliquée que d'habitude, comme
oui,
beaucoup de choses.
Un peu perturbée.
Un peu perturbée, on va dire. Mais voilà, à la fois les numéros de Terre Sauvage sont, enfin certains numéros de Terre Sauvage pour la crise du Covid, nous avons mis sur notre site internet terre-sauvage.com des numéros gratuits à télécharger. Il y a notamment un très beau numéro sur le tigre du Bengale que je vous conseille et que je conseille à tous les amoureux des animaux. Et ensuite, on peut trouver effectivement nos différents magazines sur notre boutique, mais également chez les marchands de journaux, même si on va dire ils sont pas tous ouverts et pas tous servis. En tous les cas, ça reste aussi un de nos points de vente aujourd'hui.
Olivier, j'aimerais juste, avant de se quitter, que vous nous parliez aussi de la France, puisque nous sommes tous confinés dans nos régions. Il y a beaucoup de choses à apercevoir en ce moment dans la nature française. Qu'est-ce qu'on peut trouver en mai en France, à côté de chez nous, dans nos jardins, dans les parcs qui vont réouvrir dans un certain nombre de régions d'ici quelques jours? Voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder?
Alors, c'est vrai que le mois de mai, c'est un mois quand même assez extraordinaire pour la nature, puisque c'est vraiment le moment où la nature explose, elle explose de vitalité, et j'allais dire, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous trouviez au bord de la mer, au centre de la France, en ville, parce qu'il y a aussi beaucoup de parcs et de jardins, ou en montagne. Donc c'est vraiment, c'est un mois assez extraordinaire pour la nature, puisqu'on peut, on peut y voir de la faune, on peut y voir de la petite faune, et j'allais dire, même confiné, même au bout de vos jardins, même dans un parc, si la plupart sont fermés, mais j'allais dire dans un périmètre autour de chez vous, vous pourrez observer de la petite faune. Alors évidemment, on va voir des petites vermines peut-être qui vont sortir. On peut aller dans les zones humides juste à côté, et c'est vrai qu'en ce moment il repleut de nouveau, donc on entend des grenouilles, on peut voir de la salamandre, voilà toute cette petite faune qu'il y a autour de chez nous, des écureuils quand on a des arbres à proximité. Quand on est au bord d'une rivière, on peut avoir la chance de voir un castor, même si c'est petit, mais on peut voir au moins son travail, son œuvre sur le bord des rivières.
Sa construction, oui.
Sa construction, voilà. Il y a beaucoup d'oiseaux, effectivement, des avocettes, par exemple. Si vous avez la chance de vous trouver, je ne sais pas, du côté de bord de mer, dans le nord de la France, plein de petites fleurs et puis des petits insectes, des papillons. Des abeilles sauvages, comme une petite abeille que nous on aime bien, qui s'appelle l'osmirus, qui est une petite abeille solitaire qui en ce moment fait son nid à partir de petits morceaux d'argile. Donc ça, vous pouvez... C'est vraiment le moment, j'allais dire, qui est un des plus riches pour la nature, parce que c'est l'explosion, quoi. Donc que ça soit en forêt, que ça soit en prairie, que ça soit en montagne, là où la neige fond, les marmottes ressortent. Si vous avez même de la chance de pouvoir aller randonner après le 11 mai, vous pourrez peut-être voir des lagopèdes, des petits oiseaux qu'on ne voit pas très très souvent et qui revivent, on va dire, au mois de mai, parce que c'est vraiment le mois où la nature reprend ses droits.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Thévenet. Je rappelle donc que dans ce numéro du mois de mai du magazine Terre Sauvage, vous pouvez découvrir notamment un sublime dossier sur ce pays magique qu'est l'Islande. Merci à vous. On se quitte à nouveau quelques minutes et on se retrouve tout de suite pour parler à nouveau de nature avec un photographe tout à fait hors norme.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Merci à vous d'être fidèles à cette émission Vos animaux comme tous les samedis matins. Et dans C'est votre histoire, j'avais envie de partager avec vous une rencontre, un coup de cœur avec Stéphane Hett. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour Natacha.
Stéphane, vous êtes photographe. Vous avez une signature tout à fait particulière parce que vous photographiez principalement des insectes, des petits oiseaux. Vous avez l'habitude de photographier ces animaux dans un environnement qui est très proche de vous, votre jardin principalement. et vous installez un tas de choses que vous allez nous expliquer tout à l'heure pour faire en sorte que ces animaux, une fois photographiés, soient sur un fond blanc, ce qui les sublime absolument. Votre travail, c'est un mi-chemin entre l'art, la science, la nature. Voilà, pour moi, c'est un vrai coup de cœur parce que je trouve que ça sublime vraiment la beauté de ces animaux et notamment de ces insectes, les papillons, les libellules, tous ces petits animaux qui peuvent passer presque inaperçus dans notre vie quotidienne, avec vous, prennent tout leur sens, toute leur ampleur, toute leur magnificence. Stéphane, je me suis permise, avec votre accord bien sûr, de mettre en ligne sur mon compte Instagram Pets and Wild des photos que vous avez réalisées. Hein. Ce sont vraiment des photos d'art. Ces photos, elles sont accessibles pour que chacun de vous, vous vous rendiez compte, chers auditeurs, du travail réalisé par Stéphane. Comment faites-vous pour arriver à mettre en scène tout cela ?
Eh bien, au début, pour les insectes, j'ai fait un peu d'élevage. Je me suis inscrit à l'OPI, l'Office de protection pour les insectes, et j'ai fait de l'élevage. Mais le vrai coup de foudre, le point de départ, c'est un insecte qui est rentré à mon domicile. Et comme je viens du dessin, il y a des feuilles un peu partout. J'ai glissé une feuille derrière et je me suis rendu compte que la photo que j'avais réalisée en faisant ça était vraiment... elle me bouleversait, ça me touchait, quoi. Ça sublimait, comme vous disiez à l'instant, les insectes. Et ça a été le déclenchement, quoi.
Alors, au départ, donc, un petit coup de chance, vous mettez la feuille derrière cet insecte qui arrive comme ça un peu par hasard. Aujourd'hui, vous avez un dispositif qui est assez bien rodé, qui est assez impressionnant d'ailleurs, que vous mettez en place dans votre jardin. Comment faites-vous ?
Alors, c'est vrai que au début, je me basais sur le hasard, les rencontres fortuites, puis après, je me suis dit, je vais reproduire ces conditions du hasard, je vais donner un petit coup de main au destin, et je vais m'intéresser à ce qui se passe autour de chez moi, parce que, comme j'étais encore à l'époque graphiste et illustrateur, c'était plutôt un métier sédentaire, donc je me suis intéressé à tout ce qui vivait, soit dans mon domicile, ma première expo, c'était les colocataires, donc le jardin, le garage, les environs, quoi. Et donc, je place un fond blanc, une fois que les animaux sont habitués, j'installe des petits flashs et je réalise mes photos comme ça, enfin pour simplifier, hein, donc voilà.
Mais comment pouvez-vous deviner que tel animal va venir à tel endroit ? Parce qu'une fois que votre fond blanc est installé et toute la machinerie qui va avec, donc les appareils photo, je crois même que vous avez des capteurs infrarouges pour déclencher les photographies, comment savoir que ça va se passer à cet endroit ?
Pour les oiseaux, c'est de l'observation. On regarde le cheminement de l'oiseau dans le jardin. Et puis ensuite, on dispose d'un perchoir. On fait des tests. Et quand l'animal vient, avec une barrière infrarouge, ça coupe, ça déclenche la photographie, quoi. Donc comme ça, on peut réaliser des photos de petits rongeurs, d'oiseaux. Pour les insectes, c'est soit du prélèvement au filet, c'est-à-dire que je vais un étang près de chez moi ou dans mon jardin, ou voir je coupe une herbe et je l'amène au bureau. Et les insectes sont toujours sur l'herbe et je fais la photo. C'est toujours prêt. Je suis toujours prêt à travailler. C'est un tout petit espace qui me permet de prendre des photos. Ça fait pas un mètre carré, quoi. Hein. C'est vraiment un tout petit espace dans lequel je peux réaliser toutes mes photos d'insectes. Alors c'est transportable aussi. C'est-à-dire que je peux mettre ça dans un sac à dos, grimper dans la montagne et puis installer mon fond blanc tôt le matin pour les insectes. Hein. C'est là où ils sont le plus calmes. Et ça, donc on décolle vers 6 heures du matin. On arrive à 8 heures sur le site, 8-9 heures, et puis on fait les photos, quoi.
Quelles sont les plus belles rencontres que vous avez pu faire dans vos expéditions photographiques ?
Oui, ce qui est merveilleux avec ces photos d'insectes, c'est qu'elles m'ont fait voyager, pas forcément très loin, mais je sais que, par exemple, aller photographier Isabelle à Digne-les-Bains avec Roger Isoar, l'homme qu'il a découverte dans les années 80.
Alors peut-être faut-il expliquer ce qu'est l'Isabelle.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que nous ne sommes pas tous des grands spécialistes des papillons, mon cher Stéphane.
Alors l'Isabelle, c'est le plus grand papillon de nuit avec le grand paon de nuit, donc qui vit en France. L'Isabelle, c'est un papillon vert. Vert et marron, très mimétique, qui se nourrit d'épines de sapin. Et voilà, quoi. Donc, pour le photographier, en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met un drap blanc, on a une femelle à plante, et les mâles de papillons de nuit ont des capteurs dans les antennes, ce qui permet de détecter la femelle qui envoie les phéromones à environ 4 km, quoi.
Et donc ça, c'est un moment marquant pour vous, un moment fort.
Parce qu'il y avait aussi Tristan Lafranchi, qui est un grand entomologiste. Enfin, c'était chouette, quoi. C'était festif.
Y a-t-il parfois des surprises aussi ?
Il y a des surprises, oui, des bonnes surprises ou des déceptions, on va dire. Je suis allé avec quelqu'un justement qui travaille avec Terre Sauvage, Emmanuel Boitier, parce que j'entendais tout à l'heure l'intervenant
Olivier Thévenot, oui, de Terre Sauvage.
Olivier, intervenir. Donc, je suis allé avec mon épouse chez Emmanuel pour photographier un papillon assez emblématique aussi, c'est l'Apollon. Et donc ça, c'était en Auvergne. Et c'était il y a 2-3 ans, il a fait un été tellement chaud que tout était décalé d'un mois, donc je suis arrivé, j'ai finalement photographié des criquets. Mais c'était pas triste, hein, la frustration, ça fait partie du métier de photographe de nature. C'est normal de ne pas réussir. Ce qui est anormal, c'est la réussite, je trouve.
Vous avez aussi beaucoup de photographies d'oiseaux. Là encore, ça nécessite une mise en scène un peu particulière. Enfin, quand je dis mise en scène, vous ne transformez pas la nature, mais vous plantez un décor dans la nature.
Oui, souvent, je peux, par exemple, pour les petites mésanges bleues, j'avais été chercher chez un ami agriculteur des poteaux de champ avec des barbelés, donc rouillés, qui faisaient tout à fait vrai, qui auraient pu se trouver dans le champ à 500 mètres de chez moi, en fait. Et je les ai installés dans mon jardin, j'ai mis mon fond blanc derrière, mes petits flashs, et puis j'ai disposé quelques graines au sol, et les oiseaux sont venus tirer leur autoportrait, on peut dire, hein, parce que comme c'est eux qui déclenchaient, c'est un travail qu'on se partage avec les oiseaux, ça.
Quel sentiment vous éprouvez quand vous découvrez les photographies que vous venez de réaliser?
Oui, c'est vrai. Alors, pour les oiseaux, quand on travaille à la barrière, c'est vrai que c'est un peu de la découverte. Alors, des fois, on installe, on va vérifier, il ne se passe rien, et puis d'un seul coup, hop, c'est magique, il y a un truc auquel on ne s'attendait pas qui se produit. Un envol, une position particulière qu'on connaissait pas. Alors que quand on photographie directement en voyant dans le boîtier, là, on imagine tout de suite l'image qu'on va produire. Alors, tandis que là, c'est vraiment une découverte. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. Une fois, j'ai eu comme ça un chien qui faisait ses besoins sur mon fond blanc.
J'ai eu beaucoup de questions sur le compte Instagram de Pets & Wild concernant vos photographies. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de montage derrière,
non,
Stéphane.
Non, j'ai répondu. D'ailleurs, j'ai envoyé une petite vidéo.
Oui.
Ouais, je réponds. Non, il n'y a pas de montage. L'idée, c'est vraiment de montrer la beauté de ce que j'ai vu. Alors, c'est pour ça que j'aime photographier
très bien
des choses petites et dérisoires, comme les graminées.
Merci à vous, Stéphane, pour cette découverte incroyable. Et voilà, on arrive au terme de cette émission. Ça passe décidément beaucoup trop vite. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao à tous.